Bonjour mes frères et mes sœurs. Tenez-vous parole, tenez-vous vos promesses. Lorsque vous dites une chose, lorsque vous prenez un engagement, une responsabilité quelconque, est-ce que vous tenez vos promesses? Ça c'est important car la plupart du temps, nous faisons des promesses, nous prenons des engagements, mais nous ne donnons pas suite. Autrement dit, on ne peut pas dépendre de nous, de nos paroles. Et pourtant, si Dieu, qui promet beaucoup de choses dans la Bible, si Dieu qui nous a créés, si lui ne tenait pas ses promesses, où en serions-nous aujourd'hui? C'est ça le sujet de mon sermon, car Dieu ne ment pas. Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours ses promesses. Alors, je vous pose la question, une question très simple. Si Dieu qui a tout créé, si Dieu qui fait tant de promesses dans la Bible, si Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, ne tenait pas parole, si Dieu en quelque sorte mentait, où en serions-nous? Mais voyez-vous, Dieu ne ment jamais. Laissez-moi du reste commencer par cette promesse divine. C'est une promesse dans la Bible. Ça se trouve dans Tite, que l'apôtre Paul a écrit. Tite, chapitre 1, verset 1, où nous lisons, et Paul dit, « Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité. » Voyez-vous, la connaissance de la vérité. Et c'est une vérité que je vous prêche en ce moment-ci. Dieu ne ment pas. Et Paul continue, « La connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Et ensuite, il ajoute, « Lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. » C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est quelque chose sur laquelle vous comptez. Si on ne peut pas compter sur l'espérance, alors où en serions-nous? Si nous ne pouvons pas compter sur Dieu, où en serions-nous? Et Paul ajoute, l'espérance de la vie éternelle, promise, voilà. Une promesse est déjà quelque chose que l'on doit non pas seulement attendre, mais aussi nous qui la faisons, devons la tenir. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Voilà. Tite, chapitre 1, verset 2. Par le Dieu qui ne ment point. C'est ça notre base pour être absolument certain que Dieu fera ce qu'il a promis. Autrement, nous ne serions même pas vivants. Je continue. Voyez-vous, nous faisons tous souvent des demandes à Dieu. Et pourquoi ferions-nous des demandes à Dieu si nous n'étions pas sûrs ou certains ou absolument convaincus que Dieu tiendrait ses promesses? Mais voilà, il y a une différence. Dieu tient ses promesses en temps utile. Nous voudrions que Dieu fasse ce que nous demandons tout de suite, mais ce tout de suite n'est pas dans la Bible. Dieu promet les choses, Dieu fait les choses en son temps. C'est ça le secret, voyez-vous. La Bible, je dirais, est un recueil de promesses. C'est un livre de promesses. C'est un livre dans lequel vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez, à condition que vous donniez le temps, d'abord pour vous-même, pour chercher, et ensuite pour attendre le moment où Dieu accomplira ses promesses. C'est ça la différence, voyez-vous. Si nous, nous comprenons que Dieu fait les choses en son temps, et c'est ça notre promesse, notre garantie, que tout ira bien. Je vous dis franchement, si vous pensez bien, si Dieu faisait les choses toujours selon votre temps, selon votre façon de penser, les promesses divines ne seraient pas bonnes pour vous. Continuons. Lorsque nous sommes malades, par exemple, nous prions pour que Dieu nous guérisse. Mais quand est-ce que vous voulez être guéri? Tout de suite, c'est certain. Nous voulons tous être guéris tout de suite. Et beaucoup de fois, nous sommes guéris tout de suite. J'en parlerai dans quelques instants. Mais regardez voir ce que la Bible en dit en ce qui concerne les promesses divines lors d'une maladie. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 15. Nous lisons, « Quelqu'un parmi vous, ça peut être vous, ça peut être moi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il appelle les anciens de l'Église, les anciens signifient un ministre de Dieu, et que les anciens prient pour lui en loignant de l'huile. Autrement dit, il y a quelque chose que le ministre doit faire, il y a toujours un peu d'huile avec lui, loignant de lui d'huile. Autrement dit, en loignant d'huile au nom du Seigneur, et qu'est-ce qui va se passer alors? La prière de la foi sauvera le malade, verset 15. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voyez-vous, dans ce que je viens de dire, il y a pas mal de choses. D'abord, il faut appeler un ministre de Dieu pour qu'il vous oigne d'huile. Et ensuite, il faut que vous ayez la foi. Et ensuite aussi, il faut que vous sachiez que la maladie est souvent, pour ne pas dire toujours, la conséquence d'un péché, d'un acte commis qui est contraire à la nature que Dieu a voulu que vous ayez, que nous ayons, ou à ce que nous faisons. Dieu nous promet donc la guérison lorsque nous sommes malades. Mais ce n'est pas tout. Dieu nous promet beaucoup de choses. Et ces promesses divines sont toujours conditionnées. Il y a une condition. Si nous ne respectons pas la condition mise, dans ce cas-là, les promesses divines ne seront pas valables. Et ça, c'est important. Vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible et ne comprennent pas grand-chose. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une prophétie divine. Une prophétie divine, c'est quelque chose que Dieu prédit d'avance ce qui va se passer. Donc, mais maintenant, prenons les promesses divines. Vous direz, mais quelles promesses? Vous venez de voir la maladie. Et après ça, écoutez, chaque fois, chaque seconde dans votre vie, vous dépendez de Dieu. Si Dieu ne vous promettait pas de vous protéger, vous ne seriez pas vivant. Si Dieu ne vous promettait pas de vous soigner lorsque vous êtes malade, comme vous avez vu, ou bien si Dieu ne venait pas à votre aide lorsque vous lui courez, vous lui demandez secours, eh bien, Dieu, franchement parlant, n'existerait pas en ce qui vous concerne. David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est que David croyait en Dieu. David était absolument certain que Dieu tient promesse et que Dieu fait ce qu'il a promis. C'est ça la foi. Lisez les psaumes. Il y a tellement de choses dans les psaumes qui sont encourageantes. Il y a tellement de choses dans les psaumes qui nous aident à comprendre ce que Dieu est, ce qu'il veut que nous fassions, et comment accomplir les promesses divines. Accomplir par nous-mêmes, mais faire notre part afin que les promesses divines s'accomplissent. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples. Psaume, chapitre 3, chapitre 103, psaume 103. C'est intéressant car, voyez-vous, ça vous donne déjà l'attitude de David, la façon de penser de David, la façon de compter sur Dieu. David a écrit, psaume chapitre 103, versets 1 à 3, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Autrement dit, nous tous, nous n'avons pas une âme quelconque, nous sommes des âmes. Autrement dit, il dit « Moi-même, je veux bénir l'Éternel ». Comment est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? Le mot « bénir » ici est synonyme d'être reconnaissant, de remercier. Autrement dit, je remercie Dieu, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en nous bénisse son saint nom. Autrement dit, que tout ce qui est en nous reconnaisse la bonté divine. Mon âme bénit l'Éternel, il répète, et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Voilà comment David priait. Il dit, celui, c'est Dieu, verset 3, regardez voir cette force. C'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ce sont des promesses fantastiques. Il faut y croire, il faut y être absolument certain. Ensuite, si par exemple, vous dites, Dieu guérit toutes nos maladies, alors il faut savoir s'il y a des promesses qui sont faites dans la Bible Et là, vous en voyez quelques-unes. Si ces promesses demandent des conditions, nous verrons. Alors, si donc un Dieu qui ne ment pas fait des promesses pareilles, il doit quand même avoir des raisons pour lesquelles ces promesses ne sont pas toujours valables, mettons, ou bien n'arrivent pas. Eh bien, la raison est simple. Le véritable chrétien, vous, moi, lorsque nous prenons un engagement envers quelqu'un, nous devons respecter nos engagements. Lorsque nous promettons quelque chose, nous devons faire ce que nous avons promis. Ça, c'est certain. Ce faisant, vous avez une meilleure idée de ce que Dieu a en tête lorsqu'il fait des promesses dans la Bible. Parce que, voyez-vous, il nous a promis de nous accorder la vie éternelle. Si nous ne pouvons pas compter sur Dieu pour avoir la vie éternelle, à quoi bon le reste? Si en mourant je meurs et c'est fini, alors quelle est la valeur de la vie terrestre? Non, Dieu a fait des promesses en ce qui concerne la vie éternelle pour laquelle nous sommes nés. Et une fois que nous avons accompli notre part, et nous accomplissons chaque jour, alors, en fin de compte, au moment de la résurrection des morts, nous arriverons à la vie éternelle. Ça, c'est entre parenthèses. Mais, voyez-vous, je parlais des promesses divines en ce qui concerne la maladie. Laissez-moi développer ce sujet. Comment savons-nous qu'une maladie résulte d'un péché quelconque? Eh bien, prenez Exode, chapitre 15, verset 26. Dieu, auparavant, avait fait des miracles afin que le peuple qu'il a choisi puisse sortir d'Égypte. 10 miracles. Le peuple sort d'Égypte, voit l'armée de Pharaon, le peuple est effrayé, veut retourner. Dieu les aide par des miracles. Et ensuite, il les conduit sur la voie du salut, pour ainsi dire. Autrement dit, l'Exode. Ça, c'est l'Exode. Lorsque le peuple a commencé à sortir d'Égypte, et est sorti d'Égypte, et a commencé sa marche vers le pays promis, regardez ce que Dieu a dit à son peuple. Une promesse sur laquelle le peuple devait absolument compter. Il a dit, Exode chapitre 15, verset 26, écoutez bien, je cite maintenant Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, pas aux vôtres, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes les choses que je t'ai dites, ça j'ajoute, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Autrement dit, Dieu fait une promesse. Si nous respectons ses commandements, si nous faisons ce qu'il nous dit, nous ne serons pas frappés par les maladies dont nos ancêtres ont été victimes. Cette promesse divine est absolue. Nous devons tous vivre en conséquence, faire notre part, obéir à Dieu, prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, et toujours savoir que Dieu est derrière ses promesses. Il tient parole. Nous avons chacun des épreuves dans la vie. Nous avons certes des temps difficiles, des moments difficiles, parfois même très pénibles, mais si, lors de ces moments difficiles, nous nous tournons vers Dieu avec foi et nous nous rappelons ses promesses et nous faisons notre part, nous pouvons être absolument convaincus que Dieu tiendra parole et que ce que nous demandons, ce dont nous avons besoin, nous recevrons de lui. Une chose est certaine, et ça dépend encore d'une promesse que Dieu a faite. Voyez-vous, par moments, vous êtes découragé. Par moments, vous dites, j'en peux plus. Par moments, vous êtes dégoûté de la vie. Eh bien, ce n'est pas tout à fait juste, car selon la Bible, sont une promesse divine, vous ne devez jamais être dégoûté de la vie. Jamais être, jamais dire « j'en ai assez, je n'en peux plus ». Ah, c'est encore une promesse, oui. C'est une promesse, car Dieu dit, par exemple, par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, regardez voir cette force dans cette promesse. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle, là encore un mot rassurant, si vous êtes fidèle, vous tenez vos promesses, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, voyez-vous, si Dieu ne permet pas, c'est que ça ne va pas arriver. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est assez fort, n'est-ce pas? Mais qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Prenez le temps, mes frères et mes sœurs, de lire et de relire cette promesse. Car souvent, nous disons, j'en peux plus, c'est trop. La vie est dure. Ben, d'accord, la vie, parfois, est dure, peut-être. Mais peut-être que vous pourrez toujours compter sur Dieu et qu'aucune de vos tentations ne sera au-dessus de vos forces. Y croyez-vous? Si vous y croyez, est-ce que vous vivez en conséquence? Et si vous-même, qui croyez en Dieu, pouvez-vous vraiment dire que les promesses que je fais moi-même, les engagements que je prends, je les respecte? Car c'est très important. Si vous ne respectez pas vos propres promesses, comment voudriez-vous que les autres respectent les leurs ou que Dieu lui-même respecte ses promesses? Considérez la parole divine en ce qui concerne la façon de devenir chrétien. Vous savez, vous rencontrez pas mal de gens, surtout moi dans mon ministère, et ces gens croient être chrétiens. Ils sont chrétiens à leur façon. Ils sont chrétiens parce qu'ils font les choses d'après leur propre compréhension de ce que Dieu promet. Mais ça, ce n'est pas la façon de devenir chrétien, pas du tout. La façon de devenir chrétien, véritablement chrétien, c'est de faire ce que Dieu vous dit dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans la Bible. Alors, Dieu, que je vous ai dit, nous a créés, nous, des gens tout à fait simples, des gens terrestres, des gens charnels, des gens nés de la poussière de la terre. Autrement dit, nous ne sommes rien. Dieu nous a créés de rien, pour ainsi dire, pour arriver à la vie éternelle en devenant un jour des êtres spirituels. Autrement dit, c'est une réalisation fantastique. Et c'est pour cela que nous passons dans la vie par des moments difficiles parfois, par des épreuves. Et Dieu est toujours avec nous lorsque nous avons des épreuves, comme nous venons de voir. Mais si nous tenons bon, si nous allons jusqu'à la fin, si nous nous repentons de nos péchés, le repentir, c'est cesser de pécher, le péché, c'est la transgression des lois divines, ce sont des choses que nous savons. Donc, si nous ne transgressons pas les lois divines, si nous marchons dans l'obéissance aux lois divines, en fin de compte, nous recevrons le Saint-Esprit par lequel nous arrivons à la réalisation totale et complète et finale de cette vie, c'est-à-dire nous deviendrons des êtres spirituels lors de la résurrection des morts. Ça, c'est les promesses. L'ensemble des promesses divines. Et si nous qui sommes les appelés, nous qui comprenons ces choses, si nous faisons notre part, nous arriverons à cette promesse divine qui est vraiment, je dirais, la base même de notre salut. Notez-le. L'apôtre Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, verset 38, c'est cette promesse que je viens de vous dire, il dit, repentez-vous. On se repent des péchés que nous avons commis. Ensuite, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Baptiser signifie immersion totale. Et le baptême est toujours après la repentance. Pour le pardon de vos péchés, voyez-vous, c'est ce que je viens de vous dire. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Voilà en somme comment arriver à être véritablement chrétien. Dans ce sermon, aujourd'hui, je mettrai l'accent sur ça, l'accent sur les promesses divines qui nous mènent vers le but final. Car aucune promesse divine n'a jamais été donnée en vain. Au contraire, Dieu tient toujours parole. Si Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y compter absolument sans aucune, je dirais, sans aucun doute. Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, a fait beaucoup de promesses aussi. Du reste, chaque parole que le Christ a prononcée était une promesse. Et nous pouvons compter sur ces paroles. Nous pouvons compter les promesses du Christ. Car le Christ, le Fils de Dieu, ne ment pas non plus. Alors, l'une des promesses les plus importantes du Christ, c'était quoi ? Ça va vous étonner, certains d'entre vous qui m'écoutez peut-être la première fois, parce qu'un vrai chrétien dont nous parlons n'est pas quelqu'un qui prétend être chrétien parce qu'il croit en Christ ou bien en Dieu, non. Un véritable chrétien, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés, s'est fait baptiser et a reçu le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit est un don divin. J'en ai parlé par le passé. Et regardez voir ce que le Christ dit en ce qui concerne cette promesse du Saint-Esprit. Là encore, voyez-vous, nous recevrons le Saint-Esprit par une promesse. Si Dieu ne tenait pas à parole, nous n'aurions jamais pu avoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, l'évangile selon Jean chapitre 16, verset 7 à 8, le Christ a dit, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, que le Christ meure, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, voilà. Ici, le Saint-Esprit est nommé par le nom Consolateur. Le Consolateur ne viendra pas. Ce n'est pas une troisième personne, je vous ai déjà parlé à ce sujet. C'est l'Esprit de Dieu qui viendra. Et si je m'en vais, dit-il, je vous l'enverrai. Comment est-ce qu'il nous l'enverra? Je viens de vous montrer dans Actes chapitre 2, verset 37, 38. Autrement dit, nous nous faisons baptiser, nous nous repentons de nos péchés et nous recevons le Saint-Esprit que le Christ a envoyé. Et ensuite, regardez la promesse du Christ, verset 8, Jean 16. Quand il sera venu, donc le Consolateur, le Saint-Esprit, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Il vous aidera à comprendre ce que c'est que le péché. La justice divine. Le jugement, pas des hommes, mais le jugement de Dieu. Voilà des vérités. Voilà pourquoi il y a tellement de gens, de par le monde, des chrétiens, je dirais, qui ont leur propre interprétation des mots péché, justice, jugement. La seule interprétation correcte, c'est ce que Dieu nous donne dans la Bible. Et nous devons y compter, car Dieu ne ment point. Lorsque nous recevons le pardon divin, lorsque nous recevons la réponse d'une demande que nous faisons à Dieu, nous devons être sûrs que Dieu qui fait sa part toujours, et si ça n'arrive pas dans notre vie, nous devons être sûrs que nous ne blâmons pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est encore une tendance humaine. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, et si cette promesse, entre guillemets promesse, n'arrive pas, alors, vous cherchez à blâmer quelqu'un, souvent même Dieu. Non. Au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, et même Dieu, cherchez à savoir pourquoi la chose que vous demandez à Dieu n'arrive pas. Où est-ce que vous avez failli à votre devoir? Parce que c'est toujours nous. La faute est en nous et non pas en quelqu'un d'autre. Et pourtant, la nature humaine veut blâmer quelqu'un d'autre. Ce faisant, vous n'arriverez pas au but. L'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, a beaucoup écrit sur les promesses divines. L'apôtre Paul a respecté la parole divine. L'apôtre Paul a été persécuté, blâmé, a toujours compté sur Dieu parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé pour une raison. Et vous êtes appelé pour une raison. Vous êtes appelé pour être sauvé, pour un jour arriver, je répète, à la vie éternelle. Donc, si, et lorsque nous avons reçu la promesse divine du Saint-Esprit, dès ce moment-là, comptez sur Dieu. Comptez sur ses promesses. Et même si vous avez des difficultés à avancer dans cette voie, sachez que Dieu ne ment pas, et sachez que si vous tenez bon, la chose que vous demandez s'accomplira. Deuxièmement, citer ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, voilà le but de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Ce sont des promesses, voyez-vous, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Certains individus qui entendent ces paroles ne comprendront pas. C'est simple. Dieu nous appelle. Nous avons le droit d'accepter l'appel ou de refuser l'appel. Si vous acceptez l'appel, si vous faites donc ce que Dieu vous dit pour devenir véritablement chrétien, dès ce moment-là, vous êtes l'élu, un élu que Dieu a appelé, a choisi. Et dès ce moment-là, voyez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Enfant pas encore né. Enfant engendré, pour ainsi dire, du Saint-Esprit. Et alors, vous devez progresser. Mais vous, ce sont, tout ça, c'est des promesses. Mais tout ça, c'est des promesses, d'accord? Mais il faut que ces promesses que vous entendez et qui sont vraies, il faut que vous teniez aussi vous-même vos propres promesses. Autrement, les choses n'iront pas, voyez-vous, comme vous voudriez. Parce que Dieu ne ment pas et il veut que vous-même, vous ne mentiez jamais. C'est du reste l'un des 10 commandements. Regardez voir ce que Dieu a promis. Une chose qui est inimaginable. Je dis bien inimaginable parce qu'humainement parlant, on ne peut pas dire que c'est possible. Regardez voir. 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Écoutez bien. Jean dit, quoi que ce soit, là encore, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, de Dieu. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce que lui est agréable. Si on fait ce qui est agréable à Dieu, dans ce cas-là, et si nous gardons ses commandements, dans ce cas-là, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Incroyable. C'est fantastique. Et c'est vrai. Ces versets bibliques doivent nous encourager, doivent nous être utiles, sont utiles pour devenir vraiment fidèles. Et aussi pour nous encourager à devenir fidèles nous-mêmes à nos propres engagements. Ne blâmez personne si les choses ne vont pas dans votre vie comme elles devraient. Cherchez à voir vous-même et vraiment demandez à Dieu de vous aider à trouver où est-ce que vous péchez, où est-ce que vous faites un détour. Et demandez à Dieu de voir vos propres responsabilités. Il vous aidera. Si vous avez l'esprit ouvert. Il se peut que parfois, et c'est, je dirais souvent même, que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez sur le moment même. Ce n'est pas dit que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Le temps dépend de Dieu. Une fois que vous faites une demande à Dieu et que Dieu vous promet, attendez la réaction, attendez le moment, attendez l'accomplissement et ne commencez pas à douter de Dieu. C'est ça le problème. Beaucoup de gens, voyez-vous, là, lorsque les choses n'arrivent pas comme ils voudraient, au moment où ils voudraient, dans ce cas-là, ils perdent foi. Ne perdez pas foi si Dieu tarde l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'est, je dirais, la façon dont il parle, dont il raisonne. Et comme Dieu raisonne, c'est toujours meilleur que mon propre raisonnement. Une chose est certaine, vous avez vu et vous verrez, Dieu tient toujours ses engagements. Et ça, c'est votre base. En conséquence, vous devez vous-même toujours tenir vos engagements. Laissez-moi vous citer l'exemple des héros dans la Bible, des prophètes, des gens que Dieu avait appelés. Regardez voir les exemples, par exemple, dont certains sont mentionnés dans Hébreux chapitre 11. Ce sont des gens que Dieu avait appelés, que des gens qui ont accompli une mission. Regardez voir ce qui s'est passé. Ils avaient reçu une promesse et ces promesses n'ont jamais été accomplies de leur vivant. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ces gens qui sont cités dans Hébreux 11. Sans avoir retenu les choses promises, voyez-vous. Les choses promises sont promises, ils les auront, mais à ce moment-là, alors qu'ils étaient vivants, ils ne les ont pas encore reçues. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Comment ? Ils les ont compris, ils ont eu foi, ils attendent. Ils sont morts aujourd'hui, mais dès qu'ils ouvriront les yeux, ils verront ces promesses s'accomplir. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, et voyageurs sur la terre. Voyez-vous, c'est ce que vous faites, c'est ce que je suis. Cette promesse se répète du reste au verset 39 à 40, dans Hébreux 11. Tout cela, et dans ce moment-là, vous et moi, nous serons dans ce groupe, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas encore obtenu ce qui leur a été promis. C'est ça la différence. La promesse est là, la promesse sera tenue, mais ce n'est pas encore le moment. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, qui sommes encore vivants aujourd'hui, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. C'est ce que je vous dis maintenant. Dieu a promis des choses à nos ancêtres qui ont suivi sa voie. Ces mêmes promesses nous sont données aujourd'hui. Et au moment de la résurrection, nous serons tous ensemble, nous recevrons ces promesses. Ce n'est pas dit que Dieu ne tient pas parole, pas du tout. Mais dans ce qui est essentiel pour le moment dans la vie, Dieu tient toujours parole. Et vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous réponde, à ce que vous receviez ce dont vous avez réellement besoin. Rappelez-vous 1 Jean 3, verset 22. Voyez l'histoire des Israélites. Ils souffraient. Dieu les a appelés hors d'Égypte. Dieu leur a promis qu'ils puissent entrer dans un pays prospère et que Dieu a promis d'être leur Dieu, de les gouverner, de leur montrer le chemin du bonheur. Mais tout ce que Dieu leur avait dit, les Israélites les ont rejetés. Autrement dit, ils voulaient faire à leur façon, agir à leur façon, vivre comme ils voudraient vivre, tout en ayant les promesses divines s'accomplir dans leur vie. Ce n'est pas possible. Vous ne dites pas à Dieu comment vous voulez, comment vous désirez qu'il vous bénisse. Dieu vous dit comment il vous bénira et vous faites votre part. Vous faites votre part. Dès ce moment-là, ne blâmez pas Dieu si vous ne respectez pas vos engagements. Prenez le temps de lire deux chapitres dans la Bible, deux chapitres importants, car ce sont des chapitres où Dieu fait beaucoup de promesses, des promesses qui sont bonnes et des promesses qui ne sont pas bonnes. Vous direz comment ? Eh bien, voyez-vous, si vous faites votre part, je répète, ces promesses sont bonnes. Si vous ne faites pas votre part, les promesses que Dieu vous fait ne sont pas agréables. Je parle maintenant de Deutéronome chapitre 28. Prenez le temps vraiment, à genoux même, s'il le faut, de lire ce chapitre. C'est fantastique. Laissez-moi lire au moins les promesses que Dieu fait si vous faites votre part. Parce que les 11 premiers versets de ce chapitre, Deutéronome 28, vous verrez comment Dieu vous dit et comme il est bon d'entendre Dieu vous parler, et comme il est vraiment agréable d'entendre la voix divine et d'entendre les choses que Dieu fait pour vous ou fera pour vous. Je commence, Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà un si. C'est une condition. Alors, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voilà la condition. Si nous ne faisons pas notre part, le reste des promesses divines ne sont pas valables. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela. Il dit que ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Y croyez-vous? Vous ne voyez pas que Dieu ne ment pas. Si nous, en tant que Français ou Anglais, si en tant que nation, nous faisons notre part, Dieu nous donnera ce qu'il a promis. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras, il répète, à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est encourageant, c'est bien, mais c'est toujours cette condition qui est valable. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-il ainsi aujourd'hui? Non. On dirait que nous sommes maudits. Le fruit de tes entrailles, autrement dit nos enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, verset 4, tes portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Aujourd'hui, toutes ces choses ne sont pas bénies dans notre vie d'une façon générale. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas notre part. Nous ne tenons pas nos promesses. Nous ne tenons pas nos engagements. Nous n'obéissons pas à Dieu. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Pensez donc. Aujourd'hui, alors que je vous parle, je vois dans les journaux que dans beaucoup de pays, il y a la famine. Que les gens n'ont rien à manger. Notre corbeille, nos huches ne sont pas bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Autrement dit, on sera protégé par Dieu. Si nous faisons notre part, l'Éternel te donnera, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Les guerres s'alléront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Autrement dit, vous aurez toujours la victoire. L'Éternel te donnera la bénédiction. Voyez-vous, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, verset 9. Verset 10, toujours, Deutéronome 28. Tous les peuples verront que tu as été appelé par Dieu et te craindront. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Presque chaque nation craint une autre nation parce que la nation elle-même n'observe pas les lois de Dieu. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez voir, certes, aujourd'hui, nous avons nos enfants, mais beaucoup d'enfants dans beaucoup de pays souffrent, sont malades, sont nés malades dans le sens qu'ils sont estropiés pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que, une fois encore, nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire. Il dit, il te bénira le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel t'as promis. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Ce sont des promesses. Nous devons y croire pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Ce matin, en me levant, je gardais le journal. Il y a la sécheresse dans beaucoup de régions, même en Amérique. D'une part, c'est la sécheresse, d'autre part, ce sont les inondations. Mais donc, cette promesse ne s'accomplit pas. Pourquoi? Ne blâmez pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui n'a pas tenu sa promesse. Parce que nous n'avons pas observé les lois de Dieu. L'Éternel, verset 13, fera de toi la tête et non la queue. Est-ce le cas? Tu seras toujours en haut et non pas en bas. Est-ce le cas? Je vous pose la question. Ensuite, verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne, c'est ainsi seulement que nous serons bénis. Et après cela, prenez le temps, je ne vais pas le citer. C'est pas la peine parce que vous verrez, dans beaucoup de versets, dans le même chapitre, Dieu nous donne ce qui va se passer. Et en regardant autour de vous, vous constaterez que c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés, toutes sortes, de, je dirais, de questions qui ne sont pas vraiment répondues. Et elles le sont, mais nous ne voyons pas parce que nous ne faisons pas notre part. C'est une porte. Il faut que cette porte soit des deux côtés ouverte. Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Il fait toujours la sienne, mais nous verrons ses bénédictions. Deutéronome chapitre 28, pour moi, est un chapitre très important. De temps en temps, je voudrais lire, je lis. Je veux voir, je peux voir dans ces 14 premiers versets ce que Dieu nous promet et qui sont très fantastiques. Et ensuite, dans les versets suivants, ce que Dieu nous dit qui va se passer et qui me montre en réalité ce qui se passe aujourd'hui et qui me met peut-être en garde pour que je puisse au moins respecter les commandements de Dieu, afin que je puisse réaliser que ce qui se passe et qui n'est pas bon, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. Laissez-moi seulement un seul verset, citer un seul verset dans Deutéronome 28, dans les promesses négatives. Verset 47, Deutéronome 28. « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance, et nous avions... » Il y a encore 100 ans, une abondance. Il dit, pour n'avoir pas obéi au milieu de l'abondance, observe toutes ces choses, servis ton Dieu avec joie. Ça, j'aime bien ce mot, avec joie. Lorsque vous servez Dieu, servez-le avec joie. Donc, pour n'avoir pas obéi à Dieu et le servir avec joie et de bon cœur, alors, tu serviras, verset 48, Deutéronome 28, regardez voir. Tu serviras au milieu de la faim, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Voyez-vous, les gens blâment Dieu. Non, il ne faut pas blâmer Dieu. C'est comme un père qui dit à son enfant, écoute, ne fais pas ça parce que tu vas te faire du tort. Si l'enfant fait quand même ce qu'il veut faire, ce n'est pas la faute au père. La même chose, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, ce n'est pas la faute à Dieu si la chose n'arrive pas, voyez-vous. C'est ce qui se passe, c'est ce que les gens doivent, une fois pour toutes, mettre dans leur tête, que ce qui se passe, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est notre faute. Une fois que vous avez compris que Dieu ne ment pas et que les engagements que nous prenons, si nous les respectons, nous les tiendrons aussi, dès ce moment-là, comme l'apôtre Paul a dit, toutes choses concourent au bien, en notre bien, et tout finira par être une bénédiction fantastique. À l'époque, le peuple que Dieu avait choisi, n'a pas respecté parole. Du reste, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, le peuple avait peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu la parole, la voix divine. Deutéronome chapitre 5, versets 24 à 27. Deutéronome 5, versets 24 à 27. Vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire. Parce que Dieu a parlé et sa grandeur. Nous avons entendu de sa voix, du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes. Ils se sont rendus compte de ce qui se passait et qu'ils sont demeurés vivants, les hommes. Il dit, et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Voyez-vous, ils ont peur parce qu'ils ont vu des choses ou entendu des choses que normalement on ne peut pas voir ni entendre. Il dit maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu, car Dieu s'est manifesté dans le feu, nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 27, ils disent à Moïse, approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel ton Dieu, allez voir ça. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que l'Éternel dira. Regardez-moi cette promesse. Nous l'écouterons, nous le ferons. Un grand mensonge, ils n'ont jamais tenu et nous ne le tenons pas encore aujourd'hui. Voilà, voilà le gros mensonge de l'humanité. La Première Nation a promis, nous l'écouterons et nous le ferons. Ils n'ont pas tenu parole. Voilà les conséquences aujourd'hui. Non pas seulement les Israélites, mais tous les autres hommes. Satan, le diable, a profité de cette attitude humaine. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui est encore très puissant et il domine en quelque sorte cette terre parce que les hommes croient à Satan plutôt qu'à Dieu. Parce que les hommes suivent la voie satanique que la voie divine. Voilà où nous en sommes. Regardez voir autour de vous. Regardez voir ces maladies. Regardez ces guerres. Regardez ces souffrances. Regardez ces séparations entre des couples mariés. Regardez voir combien de gens meurent de faim dans le pays non nanti. Vous savez, à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu nous dit de nous rappeler de lui et de nous rappeler ses promesses et de changer de voie, de prendre la direction qu'il nous montre. Si nous faisons notre part, Dieu fera toujours sa part, quoi qu'il arrive. Il n'est jamais trop tard en ce qui concerne les promesses divines. Donc, ne vous découragez pas. Vous pouvez toujours vous repentir. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans la Bible, à plusieurs reprises, il dit, souviens-toi. Chaque fois que vous voyez dans la Bible les mots souviens-toi, faites attention. Prêtez l'oreille. Regardez dans Deutéronome chapitre 8. Verset 11, il dit, garde-toi, c'est une façon de mettre en garde, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Comment est-ce qu'on peut l'oublier? En ne pas observant ses commandements, ses ordonnances, ses lois. Voyez-vous, là encore, je peux continuer, mais il y a tellement, je vous laisse lire le reste. Cette recommandation divine, cet avertissement doit être dans notre cœur, dans notre esprit, à chaque instant dans notre vie. Verset 14, Deutéronome 8, verset 14. Garde-toi que ton cœur ne s'enfle point. C'est ça le danger. Que ton cœur ne s'enfle pas. Que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ou bien d'une souffrance quelconque. Lisez, je répète, tout le chapitre. Ces promesses divines sont valables. Nous devons nous rappeler de cela. Nous devons nous souvenir que Dieu ne ment pas. Et que si Dieu nous a promis la vie éternelle, il accomplira ses promesses. Si Dieu nous a dit que nous ne souffrirons pas au-delà de nos forces, c'est exactement ce qui va se passer, à condition que nous fassions notre part. Autrement, c'est malheur sur malheur, tristesse sur tristesse, souffrance sur souffrance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Commencez-vous à comprendre. Il est toujours facile, je répète, de faire tomber le blâme sur quelqu'un d'autre. Le blâme est toujours sur nous-mêmes, individuellement. Dieu a dit, et je cite encore Deutéronome, chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » Comment est-ce que nous pouvons nous souvenir de lui? C'est en faisant ce qu'il nous recommande. « Car celui qui te donnera la force pour les acquérir. » Il dit, verset 19, « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu. » Voilà, ça commence. « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, regardez voir où nous en sommes aujourd'hui. Les nations ont leur propre Dieu, ont leur propre orgueil. » ont leur façon d'avancer. L'homme croit être puissant alors qu'il n'est que poussière. Il dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu es après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, c'est ce que le monde fait en quelque sorte. Je vous déclare aujourd'hui, dit-il formellement, que vous périrez. Voilà ce qui se passe. Voilà où nous en sommes. Lorsque vous voyez ces choses, ne blâmez pas Dieu. Et si quelqu'un vous dit, écoutez, Dieu n'existe pas, si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. dites-leur, ou dites-lui, ce n'est pas Dieu qui a fait cela. C'est comme un enfant qui va à l'encontre des ordres de son père et qui souffre, alors qui blâmer? Si nous faisons ce que Dieu dit dans la Bible, je répète, toutes ces choses ne nous arriveraient pas, individuellement et collectivement. Et puisque nous sommes en partie de la société, certes nous souffrons des conséquences, mais Dieu nous bénira quand même. Ensuite, je saute parce qu'il y a tellement ici. Ces commandements ont été donnés du vivant de Moïse. Et Moïse est mort. Et lorsque Moïse est mort, le peuple était un peu découragé. Alors Dieu a appelé Josué, le successeur de Moïse. Et il a fait les mêmes promesses à Josué qu'il avait faites à Moïse. Et c'était un choix, un bon choix, parce que Josué était un disciple de Moïse, si vous voulez dire, si vous voulez penser ainsi. Donc, ce qui s'est passé, Dieu a répété à Josué exactement ce qu'il avait dit à Moïse. Notez-le. Je cite Josué, chapitre 1, verset 2. Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Bon. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nul ne tiendra, dit-il. C'est Dieu qui promet, voilà une promesse. Une promesse qui devait s'accomplir, qui s'est accomplie en partie. Je dis en partie parce que le peuple n'a pas obéi à Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Autrement dit, Josué a reçu la même promesse que Moïse. Les bénédictions divines, la force, le courage. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette même promesse, le Christ nous a dit lorsqu'il est venu sur cette terre. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Ayez cette foi, ayez cette conviction. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui parle à Josué, certes, mais cette même promesse est donnée à nous. Fortifie-toi et prends courage. Verset 7, ça commence. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Voyez-vous, ça recommence. En agissant fidèlement, sans toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne point, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cette promesse est donnée à tout le monde, à vous, à moi, comme c'était donné à Moïse, comme c'était donné à Josué. Voilà comment Dieu respecte sa parole. Voilà comment vous pouvez être bénis en ce moment. Nous avons des souffrances. Josué en a eu, Moïse en a eu, Paul en a eu. Mais ces souffrances ne sont rien à comparer aux bénédictions qui découlent de notre obéissance à Dieu. Mettez l'accent, je dis, sur l'obéissance et comptez vos bénédictions. Soyez positifs en quelque sorte. Ayez foi. Voyez les bénédictions et non pas les malheurs qui sont devant vous. Il dit, fortifie-toi. Ne t'es pas, verset 9, je parle maintenant de Josué, verset 1, chapitre 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Dieu répète plusieurs fois, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, c'est fort. C'est fort, ces promesses. Dans tout ce que tu entreprendras, à condition que tout ce que tu entreprennes soit conforme aux promesses et aux commandements de Dieu. Vous savez, quand on voit ceci, quand on regarde vraiment la Bible de près, on dit, mais pourquoi est-ce que les gens se sont détournés de Dieu? Eh bien, posez la question à vous-même. Pourquoi est-ce que parfois vous commencez à douter de Dieu, même si vous êtes appelé et que vous avez reçu le Saint-Esprit? Pourquoi ces doutes? Parce que vous ne faites pas votre devoir, parce que vous n'êtes pas toujours sur vos gardes, parce que vous oubliez alors que Dieu dit « Souviens-toi ». Non, rappelez-vous ces promesses divines. Voyez-vous, les gens qui ont entendu ceci à l'époque de Josué, les Israélites, après quelque temps, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, vous savez quoi? Ils ne voulaient plus obéir à Dieu. Ils ne voulaient plus être le peuple de Dieu. Ils ne voulaient plus avoir Dieu à leur tête. Au contraire, ils voulaient avoir un roi quelconque, comme les autres nations. Prenez le temps de lire 1 Samuel chapitre 8, versets 19 à 20. C'est incroyable. En fait, je dirais, lisez le chapitre entier, 1 Samuel 8. Des gens qui avaient reçu toutes les bénédictions divines, les gens qui sont entrés dans le pays promis, alors ils disent à Samuel, « Donne-nous un autre roi, pas l'éternel Dieu, un roi qui nous dira ce qu'il faut faire et que nous suivrons ce qu'il va nous dire. » Samuel, sous l'inspiration divine, a dit au peuple, « Écoutez, vous êtes fous, je parle maintenant humainement, vous perdrez tout. » Vous aurez malédiction sur malédiction, vous perdrez tout ce que vous avez et vous crierez auprès de l'Éternel et à un certain moment, Dieu ne vous répondra pas. Vous savez ce que le peuple a répondu après, vous n'avez qu'à lire 1 Samuel 8, verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Autrement dit, après avoir entendu ce que le prophète de Dieu vous dit, voilà ce qui va se passer, c'est une prophétie, et cette prophétie est valable, Dieu ne ment pas. Voilà ce qui va se passer, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, voilà leur réponse. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Voilà ce que nous voulons. Et nous aussi, nous serons comme les autres nations. Tiens. Et qu'est-ce qu'elles avaient, ces nations ? La pollution, la saleté, les péchés, la désobéissance. Notre roi humain jurera et marchera à notre tête. Il nous conduira. Voilà. Un choix que le peuple a fait. Un choix que nous faisons. Mais c'est un choix quand même individuel. Nous pouvons être dans ce groupe, et nous le sommes aujourd'hui, quelle que soit la nation à laquelle nous appartenons. Nous pouvons être quand même à part. Nous pouvons être séparés. Dieu bénit chaque individu séparément. Nous devons faire notre part. C'est triste quand nos ancêtres, voyez-vous, n'ont pas vraiment cru à Dieu, n'ont pas vraiment tenu parole, n'ont pas vraiment respecté la fidélité, la bonté, la sagesse divine. Jérémie chapitre 42, encore un autre prophète qui a dit au peuple ce qu'il faut faire et que le peuple n'a pas vraiment fait. Jérémie 42, versets 5 à 6. Et il dira à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel te chargera de nous dire. » Voilà encore une autre promesse dite de sens. Mais vous, Dieu montre, Dieu nous dit par ses prophètes ce que nous devons faire et que le peuple promet et pourtant le peuple ne fait pas. Pourquoi blâmer Dieu? Les gens disent que l'Éternel nous dise ce qu'il faut faire, nous le ferons, que ce soit du bien ou du mal. Nous obéirons à la voix de l'Éternel ton Dieu, vers qui nous t'envoyons aujourd'hui, dit-il, afin que nous soyons heureux. Ils n'ont pas tenu parole. Nous ne tenons pas parole aujourd'hui. Vous pouvez voir la différence entre les promesses divines et les promesses des hommes. Dieu est fidèle. Nous ne le sommes pas. Dieu tient parole. Nous ne tenons pas parole toujours. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Nous oublions. Dieu nous bénit si nous faisons sa volonté. Nous voulons être bénis tout en faisant notre volonté. À travers l'histoire, voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. À travers l'histoire, nous les hommes, nous n'avons pas vraiment su comment plaire à Dieu, comment respecter la voix divine. À travers l'histoire, je répète, les gens n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont voulu agir à leur tête, à leur guise. Vous savez, c'est intéressant car la Bible dit dans Juges, à la fin des Juges, Dieu a donné au peuple ce qu'il voulait. Autrement dit, des rois humains, des juges humains à leur tête. L'un après l'autre, ces juges étaient mauvais. Et dans le livre des Juges, chapitre 21, verset 25, nous lisons, le tout dernier verset de ce livre, « En ce temps-là, Juges 21, 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est comme ça. À l'époque, non, c'est aujourd'hui la même chose. Chacun aujourd'hui fait ce qui lui semble bon. Voilà pourquoi cette confusion. Dieu est prononcé en tant que mot, mais Dieu n'est pas quelqu'un que l'on suit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons plus d'église que jamais auparavant. Et pourtant, nous avons plus de païens, des coutumes païennes qui sont suivies que jamais auparavant. Nous avons plus de divisions au sein du christianisme même que dans d'autres religions. Voilà, et pourtant, nous sommes censés être chrétiens. Non, mes frères et mes sœurs, il est grand temps que nous puissions vraiment ouvrir nos yeux pour voir. Il est grand temps de savoir que nous sommes les appelés de Dieu, un petit groupe. Non pas parce que nous sommes meilleurs, au contraire, parce que nous sommes faibles, mais nous devons faire ce que Dieu nous dit. Nous devons être un exemple. Nous devons montrer le chemin comme Dieu nous a montré le chemin à chacun de nous. Lorsque nous faisons notre part, lorsque nous commençons à dire « Je ferai ce que Dieu veut et non pas moi », dès ce moment-là, il y aura un changement en ce bas monde. Le Christ est venu, vous savez, pour plusieurs raisons. Le Christ est venu pour nous montrer ce que c'est que l'humilité. Il s'est humilié lui-même devant Dieu en prenant la forme humaine. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Pourquoi a-t-il souffert autant ? Parce que il nous aime, parce qu'il veut partager avec nous la vie éternelle, et il a même donné sa vie afin que vous, moi, nous puissions avoir donc droit à la vie éternelle. Lors de la tentation, lorsque le Christ a été tenté par Satan, il a été comme nous, comme vous êtes, comme je le suis. Vous savez ce qu'il a dit à Satan ? Et c'est ça que nous devions faire. Lorsque Satan a dit, écoute, glorifie-moi, prosterne-toi devant moi, adore-moi, le Christ a dit, retire-toi, Satan, ou derrière Satan. C'est ça, c'est cette force que nous devons avoir nous-mêmes si nous avons l'Esprit de Dieu, et nous l'avons, nous qui sommes baptisés. Je voudrais vous parler un peu du sermon sur la montagne. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais laissez-moi au moins vous citer quelques mots en ce qui concerne Matthieu 5. Là, vous pouvez voir quelques-unes des promesses que le Christ a faites. Que le Christ a faites à nous qui nous sommes, qui sommes chrétiens, si nous faisons notre part et si nous suivons cette voie que je trace aujourd'hui devant vous en disant, n'oubliez jamais l'éternel Dieu. Tenez vos paroles. Tenez vos engagements envers lui et envers les autres. Donc, laissez-moi citer au moins deux ou trois mots dans Matthieu chapitre 5 avant de terminer. C'est le Christ qui nous fait des promesses. Matthieu 5, chapitre 5, verset 43, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'il dit maintenant le Christ ? Mais moi, dit-il, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà la différence. Nous pouvons faire ceci avec l'Esprit de Dieu. Si nous faisons ceci, nous serons véritablement chrétiens. Il dit, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père. Et nous serons fils, nous serons dans le royaume de Dieu. Verset 46, Matthieu 5, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ensuite, il dit, les publicains même agissent ainsi. Ensuite, il nous dit une phrase avec laquelle je vais terminer. Il dit, soyez donc parfaits, devenez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous pouvons devenir parfaits en ayant le Saint-Esprit en nous, en faisant la volonté de Dieu et en ne doutant jamais de la parole divine. Et en plus, en faisant toujours ce que nous avons promis, en respectant nos propres engagements. J'espère, mes frères et mes sœurs, que vous comprenez maintenant ce que c'est que d'être véritablement chrétien.